Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM pour un magazine que vous retrouvez chaque semaine entre 16h et 16h30, Campus Lille Info. Un magazine donc qui vous fait découvrir l'université, le monde universitaire plus largement et parfois les interactions entre l'université et les lycées, par exemple. Ça va être le cas aujourd'hui avec donc demain l'université. Donc une série d'événements, de rencontres, de tables rondes, de journées d'immersion organisées par les services des universités de Lille. Et j'ai invité pour nous parler de ces événements Madame Sylvie Delmer, qui est vice-présidente à la réussite étudiante de l'université Lille Sciences et Technologies. Bonjour Madame Delmer.
Bonjour René.
Donc voilà, c'est depuis plusieurs années, un événement qui mobilise les services et aussi les étudiants, puisque ces étudiants sont parfois aussi les ambassadeurs de cette université pour aller à la rencontre des jeunes lycéens. Voilà, on a en gros trois types d'actions dont vous allez nous parler.
Oui, je vous remercie. Merci de votre invitation.
C'est un plaisir.
Ce dispositif Demain l'Université est un dispositif qui a été développé dans les années 2009-2010, à la première année de développement. Donc, ça a fait déjà un petit moment. Et c'était l'idée de développer une transition lycée-université qui soit plus aisée et qui soit plus articulée entre les établissements du secondaire et les universités. C'est donc une démarche qui rentre dans le dispositif connu dans les lycées qui s'appelle Parcours Avenir et dans lesquels nous avons aujourd'hui eu un développement important puisqu'au début on avait peut-être 4 ou 5 établissements puis aujourd'hui on est en partenariat avec 21 établissements dans le périmètre disons du Grand Lille. Ça va un petit peu au-delà puisqu'on peut aller jusqu'à Gondecourt et puis si on monte sur le nord on a des établissements partenaires vers Armentières ou Hazebrouck pour les plus éloignés. C'est un dispositif en trois temps importants. D'abord avec des lycéens de première où nous avons effectivement nos étudiants qui sont ambassadeurs de leur formation et plus généralement des universités lilloises et qui vont répondre aux préoccupations des lycéens au cours de tables rondes pour lesquelles ils sont préparés par les services SUAIO parce qu'ils ont l'habitude hein, de connaître les questions qui sont posées et les préoccupations des lycéens. Et puis, ils vont en table ronde répondre à la demande des lycéens. Ça, c'est le premier dispositif. Le second dispositif intégré dans Demain l'Université, c'est celui de mettre les lycéens en immersion dans les formations universitaires. Et c'est une journée très spéciale pour eux parce que je dirais que c'est un peu vie ma vie. Ils viennent à l'université, ils suivent la formation comme tous les étudiants. Et souvent, ils ont un tuteur pour eux tout seuls ou parfois un tuteur pour deux bénéficiaires. Et ils passent la journée avec l'étudiant dans la formation. Ce sont systématiquement des formations qui sont ouvertes en première année. Hein, donc, on retrouve des élèves en psycho, en géographie, en parcours saisi, par exemple, pour sciences et technologies. On va les retrouver aussi hein, sur les deux autres sites universitaires, hein, que ce soit Pont de Bois ou encore sur l'île Moulin ou sur l'espace de santé. Donc c'est très diversifié et la proposition, elle se fait par une inscription préalable sur le site de Demain l'Université pour pouvoir gérer en fait les flux des élèves demandeurs de cette immersion. Le troisième volet, c'est celui que l'on connaît, enfin qu'on va connaître tout au long du mois de novembre et jusqu'en décembre. Ce sont des rencontres avec les parents de ces lycéens. Ce sont souvent des parents de terminale, plutôt des parents de filles. Par rapport, on a à peu près 66% de parents qui sont des parents de jeunes filles. Peut-être parce qu'elles sont plus studieuses et qu'elles ont plus envie de savoir. Enfin, je ne sais pas. Toujours est-il que ces rencontres, jusqu'à présent, on les faisait dans les établissements des lycées et pour quelques lycées, hein, plutôt les lycées éloignés de nos universités. Et puis, il y a eu une demande forte de la part des partenaires que ce soit ouvert à plus de lycées. Et du coup, cette année, nous faisons ces rencontres dans nos universités. Donc, c'est un peu à cheval avec des portes ouvertes, puisque quelque part, les parents viennent aussi découvrir les sites universitaires. Et puis, surtout, échanger avec les équipes de vice-présidents à la réussite ou encore de chargés de mission qui sont sur ce domaine de l'orientation. Et puis des personnels des services d'orientation qui viennent compléter la demande et les questions diverses.
Voilà, demain l'université, effectivement, il y a des enjeux très importants puisque cette année, on est en train de bien réfléchir sur l'orientation des lycéens pour faire qu'ils ne soient pas en échec à arriver à l'université, notamment la première année où il y a souvent un taux d'échec assez conséquent pour le passage en seconde année, etc.
Mmh, bien sûr.
Donc, cette préparation, on va dire, cette sensibilisation tout au moins, est quelque chose d'assez nécessaire. Est-ce que... par rapport à ces problèmes justement d'intégration. Il y a, j'imagine, plusieurs types d'intégration. Il y a l'intégration aux études, et là, tout dépend évidemment de ce que fait l'élève au lycée et comment il va s'orienter ensuite. Là, je pense qu'il y a des gens qui s'occupent de cette orientation dans les lycées. Il y a aussi l'adaptation, on va dire, peut-être psychologique.
Bien sûr.
Qui forcément pour des... Alors vous parliez plus de jeunes filles peut-être qui avaient un peu peur, peut-être que pour elles c'est un grand bouleversement dans leur vie.
Oui, enfin, garçons et filles, hein, je pense que cette période est une période de transition. On le dit à nos étudiants quand ils arrivent, c'est-à-dire quand ils sont dans cette phase de mue, de passer de l'élève à l'étudiant. Cette mue, elle n'est pas si simple. La première année de formation universitaire est une phase vraiment transitoire. Les élèves savent parfois ce qu'ils aiment comme matière. Ils aiment aussi l'idée qu'ils peuvent devenir médecins, avocats, professeurs des écoles ou encore chercheurs. Bref, des images, des icônes de métier qui sont assez stéréotypées. Mais pour autant, quand on va dans le détail sur d'autres métiers moins connus ou d'autres carrières possibles, la première année est une année justement de découverte des champs des possibles. Donc ça, c'est quand même très, très important de leur dire, vous n'avez pas à avoir choisi définitivement un métier avant de rentrer en formation. Vous êtes plutôt sur une gare qui va être la gare de triage ou en tous les cas de détection des itinéraires possibles. Et on a aussi le droit de prendre un peu de temps, de se réorienter, de changer d'avis, de construire. Hein. Moi, j'aime dire aux élèves, lors de ces rencontres, qu'on construit un parcours de formation et on envisage au fur et à mesure, avec plus de précision, le débouché professionnel. Voilà. Alors, c'est une révolution. Pour beaucoup d'entre eux, ils découvrent la vie étudiante avec la diversité des activités que peut avoir l'étudiant et pas seulement des activités de formation, des activités riches et variées sur les universités, qu'elles soient sportives, culturelles, associatives, enfin, que sais-je. Et puis, peut-être moins qu'à nos générations, les étudiants restent quand même souvent au domicile familial. Donc, il faut qu'ils maîtrisent en fait cette liberté, mais qui est une liberté pas totalement assumée. Donc on va retrouver des étudiants qui ensuite prennent leur autonomie, mais elle n'est pas toujours faite en première année et parfois elle dure encore un moment parce qu'on sait aussi que sur la métropole, peu de familles, tout compte fait, ont les moyens de payer une chambre en ville. Ceux qui ont la chance d'être dans les chambres Crous sont plus autonomes, mais cette autonomie, elle s'apprend.
Alors c'est vrai qu'il y a sur cette université de Lille quelques étudiants qui viennent de loin hein, parfois. Hein. Et par contre, dans la région Hauts-de-France, on va dire pour résumer, il y a beaucoup d'universités de proximité. C'est-à-dire qu'il y a par exemple 40 ans, il n'y avait pas ce maillage, on va dire, universitaire dans des villes Je pense par exemple à Lens ou Valenciennes ou Dunkerque, etc. Enfin, à Boulogne. Donc, on peut imaginer qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ne vont pas dans des résidences universitaires, mais qui reviennent chez eux.
Oui.
Est-ce que ça change la donne, ça, d'avoir papa, maman encore
Oui, il y a des choses sur lesquelles on travaille avec les familles. Hein. C'est de leur dire aussi que quand ils sont dans leur famille, qu'ils restent dans leur famille, ce qu'il y a à gérer, c'est les temps de déplacement. Parce que quand on est à Hasbrouck et qu'on a choisi de venir sur l'île plutôt que d'aller sur le littoral, on est presque à mi-chemin, hein, disons, pour l'élève. Eh bien, c'est des temps de transport qui sont autour de trois quarts d'heure. Donc, ça veut dire 1h30 sur la journée. Quand on commence à 8h du matin, j'interrogeais une étudiante tout à l'heure, elle me disait que quand elle vient de Somain, qui est à côté de Douai, elle se lève, il est 5h30 du matin. Pour un premier cours à 8 heures. Tout simplement parce que les horaires de transport ne sont pas particulièrement adaptés à cette population et que du coup, elle arrive bien sûr en amphi ou en salle de classe à 7h40. Il y a une vingtaine de minutes, mais sinon le train suivant l'a fait arriver en gare à 8 heures, il est trop tard. Donc quelque part, ça se gère aussi parce que c'est compliqué. Il est assez difficile de gérer ça, et particulièrement dans la période automnale dans laquelle on commence à entrer, où il fait noir le matin, il fait noir le soir, et travailler en rentrant, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc tout ça, on le dit aux parents pour donner les clés de compréhension de cette adaptation à la première année.
Alors, c'est vrai qu'actuellement, alors les jeunes sont quand même beaucoup dépendants de leurs parents, économiquement déjà. Hein, il y a les problèmes de logement que vous signaliez en termes de coûts. C'est pas forcément évident pour tous les étudiants de trouver des solutions faciles. Tout le monde n'est pas boursier non plus. Oui. Hein, il faut s'adapter. Autrefois, il y avait, un cap. L'université, c'était devenir adulte. Là, on est encore parfois avec papa et maman. Comment on peut quand même s'affirmer dans la vie et, grâce aux études?
Alors justement, cette mutation, elle se fait peut-être un peu en souplesse. Dans un premier temps, les universités vont travailler avec les étudiants sur le projet personnel de l'étudiant, hein, ce qu'on appelle le PPE dans les formations, qui est de travailler sur leur motivation, sur les valeurs qui leur sont communes ou non d'ailleurs, et identifier ce qui leur est propre plutôt que ce qu'est la famille et comment ils prennent place dans leur famille. Donc travailler sur leur projet individuel. Et puis collectivement, dans les premières années, on travaille beaucoup sur des questions de travail de groupe. C'est aussi par la maison des étudiants que l'étudiant trouve une place dans le milieu associatif, qu'il pratique de la danse ou du jeu ou de la musique pour prendre quelques idées d'association. C'est aussi un moyen pour eux de devenir adultes, de prendre leur autonomie. Et puis avec Cécile Cadet, qui est vice-présidente à la vie étudiante, on aime à dire en rentrée universitaire que l'élève devient étudiant citoyen et donc un citoyen responsable. Donc ça aussi, ça s'acquiert à l'université par la diversité des interlocuteurs qu'il rencontre, hein, les enseignants, les chercheurs, qui parfois les bousculent, les titillent sur leurs valeurs ou sur des concepts ou sur la présentation de dogme, enfin, etc. Et c'est évidemment pour faire réfléchir sur la place du citoyen et sur leur prise de conscience individuelle.
Alors, on peut quitter la famille de temps en temps, enfin, le week-end, on revient souvent, hein,
oui.
Sans pour autant être seul dans une université. Il y a un environnement, il y a des gens qui y vivent, il y a des jeunes aussi. Comment on peut favoriser les relations entre les étudiants? Est-ce que des gens timides peuvent y trouver leur place? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider?
Oui, les gens timides, hein, trouvent leur place à l'université. C'est vrai que là aussi, c'est un changement radical. Hein. Ils étaient, je dirais, dans le petit pas cocon, mais en tous les cas dans le lycée qu'ils ont bien maîtrisé jusqu'à la terminale. Et donc en terminale, ben, c'est un peu comme quand on est en troisième au collège. On est, je dis pas les rois du monde, mais en tous les cas, voilà, on s'est parfaitement adapté au lycée. On a sa bande, on connaît ses potes, tout ça. Et puis à l'université, ben, c'est un choix individuel. Hein. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on trouve moins d'étudiants qui viennent en formation parce qu'ils suivent le copain ou la copine. C'est assez rare. Et du coup, les premiers mois sont des mois où la mayonnaise prend entre eux. Hein. Et on les voit bien se lier par affinité, aussi par projet. Je reviens sur le projet personnel de l'étudiant. On les fait beaucoup travailler sur comment ils se mettent en perspective à 5 ou 10 ans. 5 ans, c'est long déjà hein, pour quelqu'un qui a 18 ans. Et donc, par exemple, on leur fait faire des vidéos qui leur permettent de se mettre en situation de jeu de rôle sur ce qu'ils seront dans 5 ans. Et ça, ce sont des projets qui fédèrent les étudiants entre eux. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'en première année, on essaie de mettre en place des systèmes d'enseignement qui soient des systèmes propices au TD, au TP, à des projets participatifs. Plus ou moins facilement. Là, on a des formations dans lesquelles c'est vraiment pas possible. Quand on a des nombres d'étudiants trop importants, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Mais le plus souvent possible, on essaie de travailler sur le projet, qu'il soit en formation ou extra-formation.
Alors, dans l'année universitaire, il y a régulièrement, chaque année, j'allais dire, des journées d'immersion. Et puis il y a aussi, bon, on va dire, les journées portes ouvertes, ou on peut appeler ça comme ça aussi. Il y a une fête qui s'appelle Mixité sur ici l'Université de Lille Sciences et Technologies. Il y a d'autres événements dans d'autres sites aussi universitaires. C'est important de découvrir l'espace qui est mis à disposition d'une certaine manière.
Oui, la période des JV en début d'année est une période justement de découverte de l'ensemble des services. Le festival Mixité et d'autres actions qui sont à l'échelle de l'Université de Lille, que ce soit du cinéma en plein air, que ce soit des foulées de la médecine qui se sont ouvertes à plus d'étudiants. Bref, sur chacune des universités, il y a des événements qui permettent de commencer à se sentir étudiant et de la communauté universitaire. Et puis, il y a eu une nouveauté cette année, c'est celle de la clôture des JV avec un temps festif autour de fanfare qui a eu lieu à Saint-Sauveur et là, qui a répondu aussi à cette volonté de mixer les étudiants des trois universités dans le cadre de la fusion. Sur la question des activités, des services de l'université, les étudiants sont très acteurs de culture ou d'activités sportives. Ça aussi, ce sont des moyens de trouver sa place, de ne pas se cantonner à la notion de aller en cours, revenir, être au domicile et puis tout compte fait. Parfois des étudiants qui au fur et à mesure de l'année ont plus de mal à se lever, ont plus de mal à se dire que c'est important d'aller en cours et puis décrochent. Hein, donc tout ce qui est milieu associatif et activité extra, formation disciplinaire, c'est aussi un bon moyen de devenir étudiant acteur de son université et qui trouve sa place naturellement dans l'université.
Donc, Sylvie Delmer, on reprécise quelques petits points. Alors, par rapport aux rencontres avec les parents, elles s'adressent aux lycéens de terminale,
oui. Hein,
aux parents de lycéens de terminale. Et il y a 5 rencontres qui sont prévues prochainement. Alors, je ne sais pas comment ils peuvent s'inscrire ou comment ça se passe.
En fait, ces rencontres, elles s'organisent à partir de du lundi 27 novembre, donc on va y être assez vite. Ce sont des rencontres qui s'échelonnent au cours du mois de novembre, décembre et puis une toute dernière en début janvier. Peut-être qu'on peut donner quelques dates. Donc la première, c'est le lundi 27 novembre et elle a lieu entre 18 et 20 heures sur le campus Cité Scientifique dans le bâtiment Liliade, qui est un Learning Center Innovation. Pardon, je précise que chacune de ces rencontres est ouverte à l'ensemble des parents d'élèves de ces 21 établissements partenaires. Peu importe le lieu qu'ils choisissent et le moment qu'ils choisissent. Donc la première le 27 novembre, la seconde le 4 décembre. Celle-ci sera sur le campus de l'île Moulin, donc au centre de l'île, dans l'amphicassin, dans le bâtiment T. Toujours les mêmes horaires, 18-20 heures, ça permet que les parents puissent être disponibles. Troisième rencontre, le jeudi 14 décembre, ici sur le campus santé CHRU, dans le très grand amphi de l'amphi Varembourg. Donc là, il y a effectivement beaucoup de place pour pouvoir y venir, mais l'idée, c'est quand même d'avoir des échanges un peu personnels. Donc si les parents veulent se répartir sur les dates, c'est bien mieux. Le mardi 19 décembre clôture la période de avant Noël avec une rencontre là dans le lycée Paul Hazard à Armentières, pour permettre aux parents qui sont éloignés de la métropole ou plus éloignés de la métropole de pouvoir venir plutôt en proximité. Et donc la dernière séance est celle du mardi 16 janvier qui ici se déroulera sur le campus de Roubaix, le nouveau bâtiment IMMD LEA qui nous ouvre ses portes dans l'amphi 1 sur ce même moment de 18 à 20 heures. L'idée étant qu'on a aussi beaucoup de lycées qui se trouvent sur la zone de Roubaix-Tourcoing, qui parfois ne connaissent pas les sites universitaires, et de se dire, bah là c'est aussi l'occasion de découvrir ce bâtiment récemment ouvert, puisqu'il a ouvert en 2016, et découvrir que l'université, c'est pas seulement celle de Lille, mais qu'il y en a aussi sur Roubaix. On aurait pu faire découvrir les IUT, qui sont sur cette zone de Roubaix-Tourcoing, mais on tournera peut-être d'une année à l'autre, c'est un peu l'idée.
Voilà, donc est-ce que il faut s'inscrire, comment ça fonctionne?
Alors oui, on peut s'inscrire sur le site de Demain l'Université. L'inscription est recommandée, bien évidemment, pour qu'on puisse voir quelle est la jauge et si on n'a pas trop de surbooking, disons, sur certaines journées. Mais évidemment, cette réservation, elle est possible encore sur place quand on arrive, si jamais on avait oublié de s'y inscrire. Donc, c'est aussi pour des questions de sécurité, d'avoir une petite idée du nombre de personnes qui viennent et qui font cette démarche volontaire de venir nous découvrir.
Alors, est-ce qu'il est conseillé que les parents viennent avec leurs enfants ?
Je ne saurais pas trop répondre à cette question parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la personnalité des uns et des autres. Parfois, les parents sont bien contents aussi de ne pas être avec leur enfant parce qu'ils posent des questions, enfin leur enfant, leur adulte ou adolescents devenant adultes, ils sont quand même contents aussi parfois de venir seuls et de pouvoir poser des questions qui pourraient gêner peut-être le jeune. Et puis on a tous connu ces rencontres parents-prof où le parent vient avec l'élève et puis en gros on a des situations de jury ou de pré-jury, enfin, c'est toujours un peu désagréable, mais parfois ça rassure aussi l'élève de venir. Donc moi je dirais ça dépend de leur situation et de l'envie qu'ils ont de venir avec le parent ou pas, donc libre à eux. Mais c'est vrai que c'est quand même initié pour les parents.
Et donc peut-être aussi une occasion d'échange dans la famille.
Oui, bien sûr. Donc voilà, ma réponse est ça dépend.
Ben voilà, je pense qu'on sait tout donc sur ces journées, hein, ces rencontres, soirées parents université qui se prépare jusqu'au 16 janvier. C'est un bon moment puisque les élèves de lycée n'ont pas encore choisi complètement leur orientation et devront s'inscrire à partir de quel moment sur le site?
Eh bien justement, là pour ces questions de remplacement, disons, de la plateforme APB vers un autre type de pré-recrutement ou de gestion, disons, des flux vers les formations supérieures. On est en plein dans la période d'information. Je peux difficilement en dire grand-chose. Par exemple, demain, tous nos vice-présidents formation de France sont invités à une rencontre avec la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, Madame Vidal, qui va en dire plus sur le plan étudiant et puis sur les dispositifs qu'ils mettent en œuvre actuellement. Bien sûr qu'on a déjà des informations sur l'évolution et tout le monde peut aller regarder sur le net cette présentation du plan étudiant qui a été quand même très médiatisée. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est la fin du tirage au sort. C'est la fin d'une liste incroyable possible sur APB où en fait l'élève du coup sait plus trop comment classer ses choix, se trouve dans une situation de devoir classer avec une certaine discrimination qui est liée à la connaissance ou non de la famille, du chargé d'orientation, de tout l'ensemble du dispositif. Et puis c'était très, très peu clair, hein, cet algorithme. Pour nous, les universitaires, pour les familles, pour les parents, tout ça, effectivement, on est assez content que le APB soit terminé. Mais on a quelques idées, des listes ramassées, de choix et puis une place importante au conseil à l'élève par ses enseignants mais aussi par les universitaires qui vont donner des avis. Pour autant, c'est quand même l'élève qui aura le dernier choix.
Bien, merci Madame Sylvie Delmer. Je rappelle que vous êtes vice-présidente pour la réussite des étudiants, réussite étudiante. Nous aurons sans doute l'occasion dans cette émission Campus Il Info, de revenir sur ces évolutions, hein, bien sûr, et de tenir les parents et les élèves au courant de la situation.
Je vous remercie pour l'invitation et je serai bien évidemment à votre service pour une nouvelle rencontre.
Très bien, très bonne journée.
Merci, vous aussi.